Journée très perturbée sur la RT1 dans le col de la Pirogue. Un camion s'est couché dans le fossé ce matin. Les opérations de relevage et de nettoyage touchent à leur fin. Les syndicats très déçus après l'adoption hier par la commission permanente du Congrès de la délibération prolongeant le chômage partiel. Ce qui ne passe pas, c'est le taux d'indemnisation qui passe de 70 à 50% du salaire brut. Bien, mais pourrait mieux faire, c'est la réaction du collectif Notre Santé en danger après la proposition de loi déposée par les loyalistes sur le bureau du Congrès. Le grand retour de la foire de Bourail, annulé en 2024, l'événement aura lieu cette année. Le rendez-vous est fixé les 15, 16 et 17 août sur l'hippodrome de Téné. Et puis Yolen Niengo en vacances sur le territoire, des vacances bien méritées après une année sportive très riche et avant d'entamer un nouveau challenge dans le monde du rugby à 7. Bonsoir et soyez les bienvenus dans ce journal. Une journée donc de perturbation pour le trafic routier sur la RT1. On vous le disait ce matin, un poids lourd a fait une sortie de route dans le col de la Pirogue. Un accident sans gravité mais qui a eu pour conséquence d'entraîner la fermeture de l'axe routier pendant une bonne partie de la journée, Michael Juneski.
Oui, s'il n'y a pas eu de blessés, le chauffeur a été pris en charge avec de légères douleurs au bras après la sortie de route ce matin vers 9h. Et si la circulation était encore possible dans la matinée, car le 38 tonnes se trouvait dans le fossé, dans le versant sud du col de la Pirogue. Deux grues ont dû être déployées sur place pour pouvoir dégager du bas-côté ce camion frigorifique de l'OSEF chargé de carcasses. À la mi-journée, le col de la Pirogue a donc dû être fermé dans les deux sens pour mener à bien les opérations. Une déviation a été mise en place par la route du littoral pour les très nombreux véhicules qui empruntent cet axe routier. Nous avons fait le point avec le capitaine David Roussel, officier adjoint sécurité routière au commandement de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie.
Nous avons mis en place une déviation par la route du littoral afin d'organiser le relevage du poids lourd qui nécessitait effectivement des moyens spéciaux. Pour ce faire, nous avons dû solliciter deux dépanneurs poids lourds qui se sont transportés avec deux grues afin de pouvoir procéder au relevage du camion. Ils ont permis le relevage du camion à 16h30. Malheureusement, les opérations continuent encore actuellement puisque le chargement, lui, qui est parti dans le bas-côté, un peu dans le ravin, nécessite maintenant des manœuvres assez difficiles hein, puisqu'il faut descendre pour aller récupérer des carcasses de porc qui font environ 100 kilos et pouvoir les ramener, les sortir du fossé. Dans le même temps, une vingtaine de gendarmes étaient engagés sur le dispositif ainsi que la DI3T afin de mettre une déviation par la route du littoral hein, puisque c'est la seule solution pour éviter le col. Donc une vingtaine de gendarmes, un officier de la compagnie de Nouméa, la brigade de gendarmerie de Païta ainsi que le DSI et les motocyclistes de la brigade motorisée de Nouméa étaient engagés sur ce dispositif. À l'heure qu'il est, nous avons pu réouvrir un sens de circulation, donc le sens sortant de Nouméa Tontouta. Nous espérons que d'ici 2 heures, environ 2-3 heures, la circulation pourra se faire.
Le capitaine David Roussel, officier adjoint sécurité routière au commandement de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie. Vous l'avez entendu, le poids lourd a bien été sorti du fossé et redressé vers 16h30, mais l'intervention n'est pas finie pour autant. Les équipes sont encore sur place, alors qu'à 17h, la circulation dans le sens sud-nord était donc réouverte. Le trafic sur la RT1 dans le col de la Pirogue ne sera réouvert dans les deux sens que lorsque la circulation pourra reprendre dans de bonnes conditions. Les automobilistes qui se trouvent dans ce secteur sont toujours invités à faire preuve de la plus grande prudence.
Revenons ce soir sur l'adoption hier par les membres de la commission permanente du Congrès de la délibération prolongeant le chômage partiel spécifique jusqu'au 31 mars, voire jusqu'au 30 juin 2025, sous réserve bien sûr de disposer des financements correspondants. Pour le premier trimestre, le reliquat des financements de l'État pour 2024 sera utilisé pour un montant total de 2,8 milliards de francs. Toutefois, le texte prévoit, vous le savez, que le taux d'indemnisation passe de 70 à 50% du salaire dans la limite d'un plafond de 2 fois le SMG et non plus 2,5 fois le salaire minimum. Écoutez la réaction de Tony Dupré, le secrétaire général de la COGETRA.
C'est une grosse déception, hein, cette baisse de la indemnité de 70 à 50%. On va paupériser un peu plus 11 000 personnes dans ce contexte de guichet en plus, hein, permanent. Pour nous, ce n'est pas concevable que 11 000 personnes se retrouvent encore plus en difficulté. Nous serons vigilants et actifs sur chaque texte qui sera proposé par le nouveau gouvernement. Il faut absolument que chacun prenne ses responsabilités pour éviter le désastre économique et social qui est en train d'arriver.
Et Tony Dupré qui se dit très inquiet pour les mois qui viennent.
Bien sûr, nous sommes inquiets. Les entreprises, elles sont dans l'attente déjà d'être indemnisées. Si l'entreprise n'est pas indemnisée, la reconstruction ne se fait pas. Le redémarrage ne se fait pas. Pendant ce temps-là, on essaye tant bien que mal de prolonger le chômage partiel parce qu'il faut absolument que nos salariés restent sous contrat pour ne pas les licencier. Tout ça prend du temps, ça demande de l'argent qu'on n'a pas. Là aussi, il faut le dire, hier, on a l'impression que nos élus, ils découvrent certaines choses, comme le fait que le chômage de droit commun est terminé le 1er février. Donc il faut absolument aujourd'hui qu'il y ait une prise de conscience générale pour agir tous ensemble. Hein. On est prêts aussi à apporter des propositions, des solutions, hein. Pour tirer dans le bon sens.
Et rappelons qu'hier, les responsables et adhérents de plusieurs syndicats du territoire avaient manifesté une partie de la journée devant le congrès boulevard Vauban. Notez que nous reviendrons sur l'adoption de cette délibération et ses conséquences demain à 7h30. C'est en effet Christophe Coulson, secrétaire général de la CFE-CGC, qui sera notre invité du matin. Autre rendez-vous à noter, les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu, demain à la mi-journée, accompagner les chefs d'entreprise qui cherchent à développer leurs projets dans l'économie sociale et solidaire, et notamment les femmes. C'est ce que propose la CCI dans le programme Femmes dirigeantes qu'elle vient de relancer. Il sera au cœur des jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu, donc demain. Jean-François Baudin recevra Jessica Bouillet, élue de la CCI. Christian Tillon, qui est chargé d'opérations et de conseils aux entreprises à la Chambre de commerce et d'industrie. Nous recevrons également Cathy Manet de la librairie Calais de Livres, sélectionnée pour ce parcours 2025. Les membres du Conseil économique, social et environnemental de nouveau réunis, c'était ce matin à l'hôtel de ville de Nouméa. Il s'agissait cette fois-ci d'examiner un avant-projet de loi du pays visant à modifier le code du commerce en Nouvelle-Calédonie. Un texte découpé en deux grandes parties. Une partie au travers de deux articles visant à modifier le code pour les entreprises de production locale qui ont perdu la possibilité de produire afin de leur donner la possibilité de pouvoir faire de l'importation sous condition de taxes. L'autre volet du texte était plus technique. Il concernait des précisions pour une application plus forte de l'autorité de la concurrence dans le domaine du commerce. Écoutez Bruno Condoya, le vice-président de la commission du développement économique, de la fiscalité et du budget au CESE.
Il y a eu beaucoup de questions, mais de questions sans réponse ferme. On apprend lors de débats que ne serait-ce que l'autorité de la concurrence première concernée au travers de ces modifications n'a pas été encore saisie par le gouvernement. Concernant les deux premiers articles, on a aussi appris qu'il y avait des amendements pour essayer de le passer coûte que coûte. Ce texte, cet avant-projet émane du 17e gouvernement, qu'en va-t-il être du nouveau 18e? Est-ce qu'on a travaillé pour rien? Est-ce qu'on aura des modifications derrière? Donc trop de questions restées en suspens.
Et après plus d'une heure trente de débat, les membres du Conseil économique, social et environnemental ont émis un avis réservé sur ce projet d'avant-projet de loi du pays. Les membres du CESE qui plaident pour une refonte totale du code du commerce. Dans l'actualité ce soir également, le collectif Notre Santé en Danger, NC, qui réagit par voie de communiqué après l'examen par le Congrès la semaine dernière d'une proposition de loi visant à renforcer l'attractivité du territoire pour les professionnels de santé. Michael Geneski.
Oui, il salue dans un premier la mise en place de ce dispositif et notamment l'abattement fiscal de 30% sur l'impôt sur le revenu pendant 5 ans pour les soignants exerçant dans des spécialités identifiées comme en tension. Mais il appelle à aller plus loin pour faire face à la pénurie de soignants. Selon le collectif, cette mesure doit être généralisée à tous les soignants et non aux seules filières dites en tension. Et en complément pour les spécialités les plus critiques, la mesure pourrait être améliorée, prolongée et conditionnée, toujours selon le collectif. Il se dit enfin pleinement mobilisé pour défendre des mesures ambitieuses face à l'urgence sanitaire actuelle pour continuer de garantir l'accès aux soins des Calédoniens. Le collectif souhaite travailler avec les institutions pour répondre à l'exigence prioritaire, je cite, stopper immédiatement l'exode des soignants et à long terme, je cite encore, construire un système de santé résilient, attractif et équitable. Fin de citation de ce communiqué du collectif Notre Santé en Danger NC.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et voici notre question du jour. Après l'attribution des secteurs, pensez-vous qu'une majorité stable va se dégager au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie? Si vous pensez qu'une majorité stable va se dégager, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Vous envoyez votre réponse au 31-46. La réponse à notre question d'hier, 97% des auditeurs d'RRB qui se sont exprimés par SMS disent qu'ils comprennent la décision de la province sud de réduire ses aides aux boursiers face aux difficultés financières qu'elle rencontre. Ils sont 3% à ne pas le comprendre. Il est 17h et pratiquement 56 minutes. On va marquer une première pause dans ce journal. Dans un instant, la suite de l'actualité en Calédonie avec le grand retour de la foire de Bouraille. Ce sera au mois d'août.
En cas d'urgence, chaque seconde compte.
Choisissez la confiance. Choisissez les ambulances Saint-Jacques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Rapide, fiable, il n'y a pas de jour sans les ambulances Saint-Jacques. Votre sécurité est notre priorité. Téléphone 25 27 27.
Ah, ces assurances. J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixone à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'info soir, Lionel Sabot.
Et la foire de Bourail aura donc lieu les 15, 16 et 17 août prochains. Le conseil d'administration de la foire l'a annoncé cette semaine après l'annulation de l'édition 2024 en raison évidemment des violences de mai dernier. Les Calédoniens vont donc retrouver ce grand événement sur l'hippodrome de Téné. Une joie pour l'Ivaïrois, président du comité d'organisation, car au-delà du succès populaire, cet événement est important pour le monde de la brousse.
On est très heureux, nous, de pouvoir la réaliser. On avait beaucoup bossé sur la 47e l'année dernière, et vu qu'elle n'a pas pu avoir lieu, donc grosse déception. Et aujourd'hui, oui, on est très heureux de pouvoir la faire, et puis avoir en tout cas l'association et les bénévoles qui sont au taquet et pour pouvoir la mettre en place. Quoi. On va continuer en tout cas sur la grande histoire de la foire de Bourail, mais on va plus la ramener sur le monde agricole et patrimoine calédonien, partir un petit peu sur ce qui se faisait avant. Bah, on veut ramener la joie, on veut ramener ce que les foires apportent. Hein. Donc, ces grandes foires qui rassemblent et qui essayent de dire qu'on peut reconstruire cette Nouvelle-Calédonie tous ensemble. Et c'était essentiel de l'annoncer le plus tôt possible pour que tous nos artisans, tous les partenaires de cette foire se mettent en ordre de marche pour y répondre au maximum. Parce que aujourd'hui, on sait très bien que le porte-monnaie calédonien a subi. Mais ces foires-là, pour Bourail en tout cas, pour l'économie de la brousse, est très importante.
Le comité de foire de Bourail qui avait également annoncé vouloir pérenniser le Royal Caledonia Show en décembre à Nouméa. Pour le moment, la date n'a pas été annoncée. La lèpre en Calédonie, une maladie toujours d'actualité. Si dans certaines zones du monde, la lèpre a été éradiquée, ce n'est pas le cas ici. Et l'Ordre de Malte poursuit donc sa campagne de sensibilisation, Léo Fichou.
Fin 2023, l'Ordre de Malte avait lancé avec la DAS la campagne vers un zéro lèpre avec un livret explicatif destiné au personnel médical ainsi qu'une exposition sur ce thème. Des actions stoppées en raison des émeutes de mai dernier, mais aujourd'hui relancées à l'occasion des Journées mondiales de la lèpre, les 25 et 26 janvier prochain. Les bénévoles iront sur le terrain. Ils seront mobilisés dans le Grand Nouméa à la sortie des messes, mais aussi des grandes surfaces pour cette 72e quête annuelle. Yann Carpentier est le président de l'association L'Ordre de Malte.
Chacun donne ce qu'il peut donner pour nous aider. Alors, pour aider l'Ordre de Malte France, qui gère un peu plus de 17 léproseries dans le monde, et aider bien sûr l'association locale, parce que lorsqu'on va dans une tribu qui est à 5 heures de route, il faut payer l'essence. Il n'y a pas une famille calédonienne qui n'a pas connu ou qui n'a pas eu dans sa famille ou ami un lépreux. On n'a pas encore basculé de génération, donc ils sont sensibilisés de manière assez générale. Et ce qui est fréquent, et ce qui nous touche beaucoup, c'est qu'ils sont généreux. Malheureusement, la situation elle est comme elle est, et on serait beaucoup difficile. Mais je veux dire, au lieu de 500 francs, 200 francs, c'est énorme pour nous.
Les exactions auront également relancé la progression de la maladie, en partie due au manque actuel de personnel médical sur le territoire, explique Yann Carpentier.
Je pense que vous auriez envie de me poser la question, combien y a-t-il de cas en Nouvelle-Calédonie ? Je vais vous dire, on n'en sait fichtre rien, parce que le cas ne pouvait être révélé qu'à partir du moment où le malade allait vers le médecin. Un, le malade ne se déplace plus, et deux, quand il peut se déplacer, il n'y a pas de médecin. Donc il fait marche arrière, donc il va vivre avec sa maladie sans peut-être savoir d'ailleurs qu'il l'a. Et à partir de ce moment-là, il va être contagieux et la donner à d'autres personnes. Donc, plus longtemps ce système perdurera, plus longtemps il restera désinformé sur la maladie qu'il a, plus longtemps il la communiquera.
La lèpre est une maladie peu contagieuse qui se transmet par les voies respiratoires ou au contact de crachats et de sécrétions nasales. Il est possible de guérir de la lèpre avec un traitement rapide. Dans le cas contraire, la maladie peut causer des infirmités définitives des membres et des yeux.
C'est une très belle aventure que s'apprête à vivre une vingtaine de scouts de Nouvelle-Calédonie. Vendredi, ils s'envoleront pour un voyage d'une quinzaine de jours en Indonésie et Singapour. Voyage lors duquel les jeunes et leurs accompagnateurs se rendront notamment à Yogyakarta, la capitale culturelle de l'Indonésie. Écoutez Michel Reverset, le président de l'association des scouts de Nouvelle-Calédonie.
La devise de notre association, voire du mouvement, c'est découvrir l'autre différent dans sa culture, son mode de vie. Donc là, on est en plein dedans. Le but, déjà, c'est de montrer à nos jeunes qui partent c'est qu'on n'est pas tout seul. Sur l'Indonésie, par exemple, il y a 12 millions de scouts, et c'est ce qu'ils vont voir, c'est ce qu'ils vont côtoyer. Ils vont découvrir ce que c'est qu'un sultan, un palais de sultan, puisque la fille du sultan, la princesse Mankubuni, est la responsable des scouts.
Un voyage à la découverte d'une nouvelle culture, d'une nouvelle façon de vivre dans un pays immense et très peuplé. Colin, Armand et Joyce, qui seront du voyage, attendent ces moments de découverte avec impatience.
J'attends de découvrir d'autres scouts d'Indonésie, ouais. De visiter les monuments. Et... On va faire un camp avec des scouts pendant 3 jours.
Ouais.
Du coup, 3 nuits, on va camper avec eux.
Rencontrer une culture différente, une nouvelle langue, essayer de communiquer. C'est pas du tout la même religion, c'est pas le même mode de vie. Donc voilà, c'est découvrir la culture de là-bas.
Les rencontres qu'on va faire, c'est des rencontres inoubliables, je veux dire. Les voyages précédents qu'on a fait, les personnes qu'on a rencontrées, je les ai toujours en contact. On parle du scoutisme, etc. Enfin, je trouve que c'est vraiment des très belles rencontres.
Et les scouts de Nouvelle-Calédonie s'envoleront pour l'Asie vendredi en milieu de matinée. Ils seront de retour en Calédonie avec plein de souvenirs le 11 février prochain. En bref, la base navale de Nouméa poursuit le renouvellement de ses moyens. Hier, en début de soirée, c'est un engin de débarquement amphibie standard, aussi appelé EDAS, qui a fait son apparition à la pointe Chalex. Le Sabre porte le numéro de coque L9109. Il vient remplacer le Chaland numéro 36. Actuellement propriété de l'industriel, le navire va suivre un processus de vérification avant d'être livré à la Marine nationale au profit des forces armées en Nouvelle-Calédonie. 18h02, une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité sportive et la météo.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Chez Sima Quincaillerie, à partir du 2 janvier, c'est le mois des prix choc. La scie circulaire Makita, diamètre 190 mm, est vendue 16 600 francs, dans la limite des stocks disponibles. Plus d'infos sur simac.nc. À Nouméa, Carrefour du 4e et à Koné, lotissement Kateviti. Sima Quincaillerie, tout le monde s'y retrouve.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal, et c'est du sport, Lionel Sabot.
Et nous avons parlé rugby ce midi avec notre invité Yolaine Yengo, qui est actuellement en vacances sur le territoire. La joueuse de rugby calédonienne profite d'un temps de repos après avoir connu une année 2024 chargée, Léo Fichou.
Elle est chargée en compétition, mais aussi en émotion pour la calédonienne. Yolaine Yengo a participé avec l'équipe de France au circuit mondial de rugby à 7 avec une très belle médaille d'argent à la clé. Et puis, en point d'orgue de cette saison, les Jeux Olympiques de Paris. Une défaite en quart de finale, écoutez-la.
Donc avec le recul, bien sûr, une fierté parce que de représenter la Nouvelle-Calédonie, une fierté d'avoir participé à ces Jeux Olympiques qui étaient juste incroyables. Et bien sûr, j'ai quand même en tête la défaite en quart de finale contre le Canada, oui. Qui me fait encore de temps en temps couler la larme. Là.
Ah ouais, vous aviez des mots durs, le cœur brisé.
Ah, le cœur brisé, oui. Oui, oui, vraiment le cœur brisé. Mais je garde une très belle expérience malgré tout.
Et pour Yolaine Yengo, ces Jeux Olympiques étaient la dernière compétition avec l'équipe de France de rugby à 7. Un nouveau staff est arrivé, de nouvelles joueuses aussi. La Calédonienne doit-elle passer à autre chose ?
J'ai gardé le rythme, en tout cas.
Toujours.
Je suis là, je continue à m'entraîner personnellement, je veux dire pour moi. Et c'est vrai que là, il y a de nouveaux projets qui arrivent, des beaux projets plutôt, donc qui restent mystérieuses, je tiens à le dire.
Oui, alors, tout cas dire, qu'est-ce qu'on peut en dire pour le moment? On ne doit pas tout révéler, mais qu'est-ce qu'on peut en dire de cette suite pour votre carrière?
Que ce sera un beau projet qui me rapprocherait aussi de la Nouvelle-Calédonie. En tout cas, tout ça, c'est que des projets où je vais prendre de l'expérience. C'est un projet dans le rugby.
Voilà, donc on s'en
a rugby à 7.
Et dans la région?
Joker.
Joker.
Yolaine Yengo est donc restée floue sur son projet à court terme. Pourquoi pas une saison de rugby à 7 dans la région? L'avenir nous le dira. Ce qui est sûr, c'est qu'à terme, elle souhaite revenir en Calédonie pour transmettre son expérience.
En tout cas, c'était un de mes objectifs en partant, quand j'étais partie en 2015. C'est partir et prendre de l'expérience. En tout cas, c'était déjà être en équipe de France à 7, chose faite. Et j'avais envie de prendre toute l'expérience que j'ai acquérie là-bas pour pouvoir revenir ici et partager aux jeunes d'ici. J'espère juste que pour après, les jeunes, je leur souhaite de vivre la même expérience même mieux, meilleur que moi, parce que pour le coup, je n'ai pas gagné les Jeux.
L'interview complète de Yolaine Niango est à retrouver en audio et en vidéo sur notre site internet, le www.rrb.nc.
Allez, du tennis dans la région, on connaît les hauts, les demi-finales du tableau dames de l'Open d'Australie.
Cet après-midi, Madison Keys est venue à bout d'Elina Svitolina, la femme de Gaël Monfils, en 3-7, le score 3-6, 6-3, 6-4. L'américaine affrontera Iga Swiatek en demi-finale, Iga Swiatek qui a facilement dominé Emma Navarro en 2-7, 6-1, 6-2. Dans l'autre demi-finale, la numéro 1 mondiale Arina Sabalenka sera opposée à l'Espagnole Paola Badosa. Du côté du tableau masculin, ça joue actuellement entre Ben Shelton et Lorenzo Sonego. C'est le troisième quart de finale. L'Américain Ben Shelton qui mène 2-7 à 0. Enfin, Jannik Sinner, numéro 1 mondial, défiera en night session ce soir l'Australien Alex de Minaur. Début de la rencontre à 19h30. Je rappelle que hier, Novak Djokovic a dominé Carlos Alcaraz et qu'Alexander Zverev a battu Tommy Paul.
En Australie toujours, du cyclisme, la deuxième étape du Tour Down Under a été remportée, comme la première d'ailleurs, par l'Australien Sam Welsford de l'équipe Red Bull Bora. Sam Welsford qui consolide sa place de leader au classement général. Correspondance Jean-Pierre Zajac.
Couru sur 129 km d'un circuit qui empruntait les routes de la Barossa Valley et ses célèbres vignobles, cette seconde étape s'est encore une fois disputée sous un ciel sans nuages, une température moyenne de 26 degrés et un vent de sud-sud-est soufflant à 26 km/h. Quoique victime d'une chute à mi-course, l'Australien Sam Welsford, qui avait déjà remporté la première étape, s'est à nouveau imposé au sprint devant le Belge Arne Marit de l'équipe Intermarché et le Français Brian Coquart de Cofidis. Welsford consolide ainsi sa place de premier au classement général devant Marit et le Britannique Matthew Brennan de l'équipe Visma à 14 secondes. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Allez, on reste dans la région avec du football cette fois-ci. Les U19 féminines connaissent leurs adversaires pour le prochain championnat d'Océanie, Léo.
Le tirage au sort a été effectué hier. C'était à la maison du football d'Auckland. Les jeunes Kangourous seront dans le groupe B, un groupe qui est très relevé avec la Nouvelle-Zélande qui est tenante du titre, Tahiti qui évoluera à domicile et puis le Vanuatu. Le championnat féminin des moins de 19 ans de l'OFC se déroulera donc à Tahiti, bien évidemment, du 21 septembre au 4 octobre. L'équipe qui remportera ce championnat obtiendra son billet pour la prochaine Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans.
Et on termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous Nicolas.
Alors, cette nuit sur le sud de la côte est, le ciel sera très nuageux avec des averses qui deviendront moins présentes au cours de la nuit. Ailleurs, le temps sera généralement sec avec des nuages qui prédomineront sur la pointe nord et Belep ainsi qu'au Loyauté. Le vent soufflera de sud à sud-est entre 5 et 10 nœuds. Ailleurs, il sera variable faible. Les températures minimales varieront entre 19 degrés sur l'ouest et 25 degrés sur la pointe nord. Demain matin, les nuages resteront assez présents. De petites ondées circuleront au gré du vent et impacteront de manière isolée le sud-ouest et le nord des loyautés. Sur la pointe nord et les loyautés, le vent de secteur sud-est sera compris entre 5 et 10 nœuds. Ailleurs, il sera souvent variable faible, Lionel.
Merci, Nicolas. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant avec la rédaction d'Europe 1. Puis à 18h30, l'interview d'Europe 1 et Sonia Mabrouk qui recevra ce soir le docteur Claire Fourcade, présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Nous, on se retrouve à 19h pour d'autres infos.